Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello les cops!
C'est Chloé
et Tania.
Et aujourd'hui, on va vous parler de l'envers du décor des réseaux sociaux.
Bon, déjà les cops, on voulait vous dire un grand merci avec Chloé pour cet accueil que vous nous avez fait par rapport au lancement du podcast. On a été hyper surprise et hyper émue de tous les retours et tous les commentaires que vous nous avez faits et on espère que les prochains vous plairont tout autant. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler, Chloé ?
Alors, on va parler un petit peu des réseaux sociaux, de notre métier. On voulait un petit peu vous expliquer ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on fait, les dessous, parce que c'est vrai que ça reste un milieu assez opaque et c'est un peu compliqué parfois de tenir les tenants et les aboutissants.
Et je pense que t'en connais un rayon, parce que je crois que la semaine dernière, t'as eu droit à un petit date sympathique, n'est-ce pas ?
Ouais, c'est ce qui nous a donné un petit peu l'idée de ce podcast. C'est vrai que je suis allée dater quelqu'un via une application. On s'est retrouvés pour boire un verre et c'est vrai que je n'ose pas toujours dire mon métier direct d'emblée, donc j'ai tendance un petit peu à le cacher ou à rester très vague. Et au détour d'une conversation, j'essaye de placer le mot influence pour voir comment la personne réagit. Et le gars me sort « Oh là là, me parle pas d'influenceur, s'il te plaît, je ne peux pas me les voir ceux-là. »
Oh, wow. Et
j'étais trop gênée, vraiment. Je pense que j'étais toute rouge, ça devait se voir. Et je me suis dit, c'est vrai que les influenceurs, ils ont une très très mauvaise image. Et je me suis dit, faisons un petit peu avancer les choses, faisons bouger les choses et ce serait cool qu'on vous en parle un peu plus.
Après, je pense que vous avez vu déjà des reportages qui vous ont parlé, notamment des célébrités. Moi, je préfère les appeler des célébrités, mais oui, des personnes qui ont fait de la télé-réalité, par exemple. On n'est pas là pour radoter sur ce qui s'est dit dans le reportage. Au contraire, on va essayer de vous apporter notre vision avec le positif comme le négatif, parce qu'il y a du positif, il y en a beaucoup, en tout cas de notre côté. Mais oui, effectivement, tout n'est pas parfait et il y a plein de choses à dire. Donc voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'on fabrique tous les jours.
C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes préfèrent le terme de créateur de contenu plutôt que influenceur, parce que c'est vrai qu'influenceur est très relié à la télé et on n'est pas là pour du coup vous raconter eux ce qu'ils font, mais on est plutôt là pour vous parler de nous, comment on voit les choses. Et voilà, c'est important quand même de faire la distinction des deux mots. Donc aujourd'hui, nous, on se considère plutôt comme créatrice de contenu engagée, d'ailleurs, on peut le dire. Et c'est vrai qu'on essaye d'aborder des sujets un peu plus profonds et on essaye aussi surtout de faire bouger les choses.
Après, c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, moi, je préfère l'appellation, en tout cas, créatrice de contenu. Mais j'ai remarqué qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce que je fais quand je dis ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un mot un peu fourre-tout. C'est-à-dire que, par exemple, je peux être créatrice de contenu en créant, je sais pas moi, des photos de mariage, tu vois. Enfin, ça veut un peu tout rien dire.
C'est pas assez représentatif.
C'est ça. Et du coup, des fois, en fait, je vais dire aux gens je suis créatrice de contenu. Je vais voir dans leurs yeux que ça veut tout et rien dire pour eux. Et après, je me sens obligée de dire, bon, en gros... je suis influenceuse, mais pas forcément comme tu l'imagines, tu vois.
Ouais, il est peut-être pas très représentatif. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de créateurs qui vont être dans plein de domaines différents. Donc moi, par exemple, les domaines que j'aime suivre, ça va être niveau sexo, féminisme, vulgarisation scientifique. Enfin, voilà, donc il y a plein de créateurs de contenu dans plein de domaines différents. Et on est très, très loin de l'influenceur cliché qui se prend en selfie, qui fait des placements frauduleux, du dropshipping, etc. Non, il y a plein de personnes qui vraiment essayent de créer et d'apporter leur petite touche et j'espère qu'on fait partie de cela.
Moi, j'espère pas, j'en suis sûre.
Ouais, c'est vrai.
Alors, pour repartir un petit peu au début, c'est vrai que déjà, on a une grosse différence, je trouve, avec les influenceurs de télé-réalité. Non pas que je trouve qu'ils soient tous mauvais, il y a des exemples qui sont super cool de personnes de télé-réalité. Je pense à Victoria Meo, Bastos, etc. Vraiment, j'adore leur contenu, donc... il y a moyen de faire des belles choses et c'est pas tous des idiots, c'est plus simplement la manière dont ils créent qui est plus ou moins recherchée. Et c'est vrai que la différence entre nous et eux, c'est qu'eux ont eu directement une visibilité d'un coup et ils savaient potentiellement qu'il y avait de l'argent à faire derrière. Donc ça, je pense, un petit peu biaisé la relation avec la création de contenu. Alors que par exemple, Chloé, toi, je pense vraiment à toi. Toi, tu as commencé, pas du tout monétisé quand t'as démarré.
C'est ça, en fait, moi quand j'ai commencé, j'étais étudiante, je faisais ça vraiment pour le kiff, c'était un loisir. Je ne savais même pas qu'on pouvait être payé pour faire ça. J'en avais aucune idée. Et donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans de manière totalement bénévole, c'est-à-dire que je ne touchais aucun revenu. Et pourtant, je dédiais un nombre d'heures assez important à la création de contenu parce que, voilà, il faut le dire, ça prend quand même du temps de faire des stories, de se prendre en photo, de rédiger des posts,
parler avec les gens,
répondre aux commentaires et tout. Oui, ça prend vraiment du temps. Et du coup, je n'ai jamais touché d'argent au début. Donc voilà, je ne l'ai vraiment pas fait pour ça. Je suis arrivée là un peu innocemment. Et c'est vrai que c'est au bout d'un certain niveau, entre guillemets, d'audience que les marques sont venues me proposer des partenariats. Mais c'est venu vraiment après, tu vois.
Donc tu n'étais pas dans cette démarche-là.
Moi, c'est vraiment pendant le confinement que les choses se sont accélérées parce que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et au début, c'est vrai que je tatillonnais sur les sujets. Je ne savais pas trop comment aborder les choses. Et vraiment, le confinement, je ne sais pas, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai démissionné de mon ancien travail parce que oui, j'ai combiné les deux pendant de nombreuses années. Et dès que j'ai pu, j'ai démissionné de mon taf et je me suis consacrée à ça à plein temps. Et du coup, vu que j'avais beaucoup de temps, j'ai pu vraiment faire du contenu, je pense, de meilleure qualité. Et j'ai derrière l'audience qui a suivi, c'est vrai. Et toi ?
Ah, moi aussi, c'était un petit peu comme Chloé. Moi, je l'ai fait vraiment parce que c'était pendant le confinement, c'était mon passe-temps. Après, je vais pas mentir, je savais que les gens pouvaient se faire rémunérer en étant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas non plus un truc où j'étais complètement ingénue. Mais je savais pas, en fait, à partir de quel moment on pouvait potentiellement prétendre à être rémunéré ou pas. Parce que c'est un milieu qui est très, très opaque. Au final, même encore actuellement, ça fait bientôt 2 ans que j'en vis. Et pourtant, je reçois des fois des propositions et je me dis, ça, du coup, je peux être rémunéré pour ça. Et tu sais, je refais des fois le retour en arrière en me disant, waouh, c'est fou. Parce que moi, au début, il y a plein de trucs que je faisais gratuitement. Et en fait, on aurait pu être rémunéré. Et c'est là où, en fait, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ce milieu-là, il jouit d'une mauvaise réputation vis-à-vis de l'argent, parce qu'on comprend pas le pourquoi du comment on est rémunéré. On pense qu'on est juste rémunéré à essayer des fringues ou faire des crash test make-up, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on est rémunéré pour ça? C'est parce qu'il y a tout un travail en amont et même tout un don de soi. Genre, moi, je sais que vraiment, limite, je pense que mes petites bombes, elles sont plus proches de moi. C'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Elles sont plus proches de moi que certains de mes potes parce que je vous raconte tellement tout ce qui se passe dans ma vie au quotidien que il y a des personnes de mon entourage qui sont moins au fait de ce que je vis que mes petites bombes, quoi. C'est fou.
Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, en tant que créateur de contenu, on n'est jamais rémunéré au taux horaire, par exemple, pour le temps qu'on va passer à prendre une photo. Mais c'est vraiment parce qu'on a une communauté qui nous fait confiance, aussi grâce aux choix judicieux qu'on a fait dans nos partenariats, parce qu'une confiance, elle peut d'ailleurs se briser en un bad buzz, en un mauvais choix. Et aussi parce que ça fait des années qu'on bosse justement pour créer du contenu et avoir des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et ça, ça peut prendre des années. Personnellement, moi, ça fait 4-5 ans que je suis sur les réseaux. Donc, quand une marque va me rémunérer, par exemple, pour que je la mette en avant, elle va payer parce que ça fait 4-5 ans, en fait, que je suis en train de construire ça. Et c'est un très long processus. Alors, à la différence de quand on fait de la télé, on est médiatisé tout de suite, on a tout de suite sa communauté. Mais nous, on a mis beaucoup de temps à la construire.
Et aussi, au-delà de ça, on n'a pas forcément une audience qui est là uniquement pour nous. C'est-à-dire que moi, je suis consciente que, j'espère que nos abonnés nous suivent parce qu'on est très sympa, Chloé, Tania, petit binôme et tout. Je pense qu'il y a une partie qui nous suit pour notre personnalité, mais on a aussi toute une partie qui nous suit pour notre message, pour le contenu qu'on peut créer autour des problématiques qui nous sont propres. Par exemple, moi, quand je propose des hauls grande taille, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse parce que c'est un petit peu l'offre, on va dire, que je donne. Peut-être que toi, Chloé, ça va être de la vulgarisation de l'engagement féministe, etc. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui nous suivent pour ça, alors que les personnes qui sortent de télé, eux, sont uniquement suivies pour leurs embrouilles, leur couple, leur physique. Et forcément, même pour eux, je pense que ça ne doit pas être évident derrière de se dire comment est-ce que je peux garder ça sur le long terme, parce que c'est vrai que le jour où ils n'ont plus d'actualité, ils n'ont peut-être plus de moyens d'être vus, quoi.
Oui, c'est ça, en fait, leur contenu est tributaire de ce qui se passe dans leur vie privée, dans leur vie intime. Et c'est vrai que nous, enfin moi je sais que je me creuse la tête pour trouver des sujets intéressants, des sujets même d'actualité. Quand je vais parler, je sais pas moi, de contraception, de plaisir féminin, de féminisme, effectivement derrière il y a un vrai travail de recherche et c'est pas juste balancer des gossips ou des choses comme
ça. C'est ça, même si on aime bien le faire quand même, vous connaissez. Mais c'est vrai qu'on essaye en tout cas d'apporter une petite valeur ajoutée sur chacune de notre domaine pour pas tout faire reposer sur nous, parce qu'on sait que déjà, on est peut-être intéressante, mais il y a énormément de gens qui sont intéressants et on a envie d'apporter notre petite touche à nous, quoi.
Et c'est vrai que les placements de produits, c'est quelque chose d'assez clivant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des personnes qui le comprennent parfaitement et il y a des personnes que ça énerve. Et je ne sais pas comment toi tu pourrais expliquer le fait de des placements de produits, en fait, pourquoi on les fait et,
Moi, déjà, je comprends les deux côtés. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui sont très éduqués sur le fait que, que c'est notre rémunération. Par exemple, moi, je sais que je bosse énormément sur Instagram. C'est là où je passe les trois quarts de mon temps. D'ailleurs, moi, j'ai même pas envie de regarder ce que nos
le temps d'écran.
Bon, je ne vais pas regarder parce que ça fait peur. Mais bon, je passe énormément de temps sur Instagram et en soi, Instagram ne me rémunère zéro. Walou. Heureusement qu'on a les placements de produits parce que c'est finalement eux qui nous permettent de vivre. Après, on ne va pas se le cacher, c'est un métier qui rémunère assez bien. Donc, on n'est pas à plaindre pour autant quand on a, en tout cas, bâti une belle communauté et qu'on a fait tout ce travail en amont. Mais à côté de ça, le problème, c'est qu'il y a aussi des dérives. C'est-à-dire que moi, je sais, je pense que Chloé aussi, on essaie de limiter un maximum nos partenariats, que ce soit en choisissant des partenaires de qualité, mais aussi en limitant le nombre. Par exemple, je ne fais jamais deux collaborations le même jour. Alors que quand on regarde des gens de télé-réalité, parce que moi, je sais que je consommais beaucoup ça avant, donc je peux vraiment l'utiliser en exemple. Sur Snapchat, je passais mon temps à taper sur l'écran parce qu'il y avait des centaines d'écrans par jour, et dans les 100 écrans, il y en avait 90 qui étaient des sponsors, quoi. Mmh. Et donc forcément, je comprends que les gens, ils en ont ras la casquette de voir des collaborations, parce qu'ils ne suivent pas forcément pour ça. Après, c'est aussi le but de choisir des collaborations comme nous on fait, qui s'intègrent bien dans notre contenu, parce que moi, les marques dont je parle, pour 90%, on va dire, c'est des marques que j'utilise, et pour 10%, c'est des marques qui sont intéressantes selon moi et qui sont clean, quoi.
Et en fait, la différence, c'est que nous, on va vraiment choisir au cas par cas la collaboration, alors que eux, en fait, ils sont obligés de faire ces collabs, ils choisissent pas, ils ont un salaire mensuel et du coup, ils doivent accepter tout. Alors que nous, avec Tania, on va vraiment faire un tri de la recherche. Et moi, je sais que les marques dont je parle, ce sont des marques que je porte au quotidien. Là, tu vois, genre sur moi, mes sous-vêtements, c'est ma marque préférée que je push au quotidien. Ouais. Mon jean, pareil. C'est vraiment des marques qui s'inscrivent dans mon quotidien et qui apportent quelque chose à ma communauté. Tu le disais, par exemple, moi, je ne vais pas travailler avec une marque si elle n'est pas inclusive. Je fais du 42, parfois du 44. Si la marque s'arrête à ma taille, je me dis non, je ne vais pas proposer ça aux filles. La plupart ne vont pas pouvoir saper chez eux, c'est une blague. Alors certes, je vais pouvoir prendre un chèque, mais derrière, les filles, elles vont être hyper déçues. Donc non, je vais refuser.
Et puis c'est pas en accord avec tes valeurs, donc c'est une incompréhension après derrière de la part de la communauté. On va se dire, elle a un petit peu vendu son influence alors qu'on lui fait confiance sur ça, quoi.
C'est ça, et pour moi, ce qui n'a pas de prix, c'est vraiment la confiance de ses abonnés. Et honnêtement, je m'en fous, même si tu me proposes un énorme chèque, si je sais que ça peut rompre cette confiance et que je peux pas me regarder le soir dans ma glace, je vais pas le faire, en fait. Sinon, j'ai tout perdu, alors que je suis tellement reconnaissante, tu vois, d'avoir pu avoir une communauté qui me soutient, qui est derrière moi, derrière chaque projet.
Et d'ailleurs, cette communauté, bon, déjà, on vous aime d'amour, hein, vous me savez, mais aussi, ça peut avoir, tu penses pas, un côté un peu addictif, ces retours, parce que c'est vrai que moi, je sais que quand je postais, déjà, ma première collaboration, je me rappellerai toujours, j'étais tellement stressée quand je l'ai postée, j'avais tellement peur de décevoir ma communauté, et je me rends compte qu'au quotidien, au final, même quand je fais pas des collaborations, je suis toujours en train de checker mes DM, et je suis toujours un petit peu, je sais pas si on peut appeler ça de la validation, que toi, tu perçois ça comment, toi, qu'est-ce qu'on recherche?
Ouais, c'est une bonne question parce que moi, je suis comme toi, je regarde tout le temps mes DM et si je n'ai pas de réaction, je me dis putain, mais je suis intéressante aujourd'hui. Quoi.
Ouais, je vois grave.
Pourquoi elles m'ont pas répondu? Et c'est vrai qu'on sait qu'on est là pour le partage, donc c'est le côté positif. Mais l'autre, c'est vrai qu'on va avoir tout le temps tendance à être en attente de savoir ce que les cops pensent, en fait.
Et c'est vrai que le truc qui est super cool, c'est que vraiment, moi, j'appelle ça un petit peu, moi, mes petites bombes, je vous appelle les petites fées, mes petites marraines de la bonne fée. Parce que vraiment, demain, je sais que si je me coupe le doigt, vous êtes les premières à qui je vais parler. Je vais vous dire, je me suis coupé le doigt, qu'est-ce que je suis censée faire? J'appelle qui? C'est quoi le numéro? Genre, vraiment, c'est comme si on avait plein de petites mamans. Et ça, c'est le côté hyper positif. Et franchement, j'adore. Enfin, c'est trop agréable. Tu te sens jamais seule. C'est trop bien. Mais après, c'est vrai que qui dit un lien aussi proche, dit aussi une pression derrière. Et moi, je sais que j'ai tellement peur de décevoir que ça me...
Ouais, moi je suis trop comme toi, franchement, dès que j'ai un problème, je demande à ma communauté. Oui, il y a ce côté-là où du coup les personnes ont vraiment l'impression de nous connaître et c'est assez étrange comme sentiment, tu vois, parce que nous on connaît personne et en même temps tout le monde nous connaît. Et c'est parfois quelque chose qui est assez difficile à gérer. Moi, je vais recevoir des messages qui peuvent vraiment m'affecter et c'est pas des messages, par exemple, qui vont critiquer mon physique, grossophobe, machin. Non, c'est vraiment des messages où ça m'arrive que des filles me disent « Chloé, tu m'as déçue ». Et je trouve ça hyper fort parce que tu vois, on se connaît pas dans la vraie vie, mais tu emploies un mot que, par exemple, ce serait hyper grave si une amie me disait ça, tu vois. Et parfois, je le ressens comme ça et je me sens vraiment blessée, je me sens heurtée. Ou il y a un autre type de message qui peut me faire beaucoup de peine, c'est quand on me dit « Chloé, tu as changé ». Tu vois, comment ça j'ai changé? Non, j'ai toujours été la même. C'est peut-être que, effectivement, le contenu aujourd'hui ne fait plus écho en toi, mais ça veut pas dire que j'ai changé. Mais du coup, c'est vraiment fort parce que parfois, on va remettre en question la personne que je suis. Et ça va au-delà d'une simple critique sur mon jean, le fringue que j'ai choisi, quoi.
Oui, ça, à la limite, pas. Surtout que nous, on n'est pas très axé physique. Donc demain, quelqu'un nous critique. Je pense que si vous avez écouté notre premier podcast, vous savez que ce n'est pas le physique qui nous fait peur dans l'histoire. C'est vraiment plus décevoir, parce qu'on a l'impression d'être vraiment entre cops. Et de décevoir quelqu'un qu'on aime, ça fait toujours de la peine. C'est dommage, parce que je trouve aussi que ça fait perdre un petit peu de son naturel, des fois, sur les réseaux sociaux. Au début, peut-être, je parlais encore plus avec du franc-parler. Et maintenant, je vais vraiment vouloir prendre des pincettes. Et encore, je pousse pas à l'extrême, parce que je pense que il y a des personnes qui font encore plus attention à vraiment toutes les communautés, à mettre vraiment tous les trigger warnings, etc. Moi, je me dis, si je me lance dans ça, je ne vais pas m'en sortir, parce que j'ai quand même je suis quand même assez brut de décoffrage. Donc bon, je me dis, voilà, j'essaie de faire attention, parce que je sais que j'ai une énorme communauté. J'essaie de m'éduquer au maximum pour ne pas faire de bêtises. Mais l'air de rien, ça nous met une pression au quotidien, quoi.
C'est ça, parce qu'au final, on est vachement observé et le moindre petit écart est relevé. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je vais toujours avoir 2-3 commentaires sur un truc même qu'on voit au fin fond de la vidéo. Je ne sais pas si j'ai laissé un produit genre qui est controversé derrière moi, on va me le dire. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit au faux pas, parce que mes moindres faits gestes vont être analysés.
Et ça me fait penser aussi, parce que j'ai vu pas mal de fois l'information passer sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on a déjà parlé beaucoup avec Chloé, on parlait notamment des engagements, et on s'est rendu compte à quel point c'est difficile en 2022 d'être engagé sur les réseaux sociaux, parce que plus tu vas être engagé sur les réseaux sociaux, plus les gens vont en attendre de toi, et plus tu vas avoir la pression avant de poster quoi que ce soit, et tu vas des fois avoir tellement de remarques, et après d'ailleurs tu vas plus oser, alors que de base toi t'étais là pour défendre une cause, et après tu vas plus trop oser, enfin toi je pense que ça t'est déjà arrivé un petit peu quelque chose comme ça.
Ouais, moi j'appelle ça la charge mentale du militantisme. Je sais que moi, par exemple, je suis de plus en plus frileuse à l'idée de parler d'écologie, alors que je suis quelqu'un de vraiment engagé. Enfin, toi, tu me connais dans la vraie vie. Je fais quand même attention à ma manière de consommer, de manger et tout. Mais c'est vrai que, comme parfois, je suis pas parfaite, tu vois. Oui, on voyage. Oui, parfois, je prends l'avion, même si j'essaye de diminuer et tout. Mais je sais que c'est quelque chose, du coup, sur lequel je vais me faire attaquer. Et franchement, parfois, j'ai la flemme, tu vois, de me dire, je vais me faire attaquer, je vais recevoir des messages méchants et tout, alors que j'essaye de faire les choses bien, tu vois. Et du coup, parfois, je vais malheureusement me brider un petit peu.
Je comprends totalement que tu doives le faire et j'essaye de comprendre quelle solution on peut avoir. Et moi, j'ai l'impression que celle que j'ai trouvée qui me semble la plus juste, c'est tout simplement d'expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. Et après, de tempérer en disant qu'on n'est pas des surhumains, qu'on fait ce qu'on peut. Et surtout qu'en plus, on a notre métier qui est assez compliqué, parce que l'air de rien, par exemple, Chloé est créatrice de contenu engagé, notamment un petit peu dans l'écologie, même si tu ne parles plus trop de ce sujet-là maintenant parce que tu en as peur. Mais à la base, c'était quelque chose qui lui faisait plaisir et c'est un message qu'elle voulait porter. Et le truc qui est difficile à cumuler avec ça, c'est qu'en fait, par exemple, Chloé, dans le cadre de son travail, des fois, elle doit acheter des vêtements. Alors, qu'on soit bien d'accord, on ne commande pas sur AliExpress, on ne fait aucune collaboration avec Shein. Bref, on essaie d'éviter au maximum les marques qui sont vraiment craignos. Mais ça n'empêche que voilà, est-ce que c'est vrai que maintenant, si Chloé, elle dit qu'elle est écolo, elle doit avoir un seul jean, un seul t-shirt et tourner et le laver à la main tous les jours, alors que dans son métier, c'est important aussi de pouvoir proposer du contenu, que ce soit tester des nouvelles crèmes, tester des nouvelles choses. Et c'est difficile, en fait, finalement, de réussir à manier les deux sans tomber dans un extrême ou dans l'autre.
Oui, c'est clair, c'est vraiment pas facile, parce qu'à la fois, on consomme et on recommande. Donc forcément, il y a ce côté-là un peu publicitaire qui peut aller à l'encontre de certaines valeurs. Mais voilà, après, on essaye de faire les bons choix. Moi, j'essaie toujours de choisir des marques éthiques, made in France. Et il m'arrive vraiment de refuser des collaborations extrêmement bien payées qui pourraient me mettre à l'abri pendant plusieurs mois avec des sommes à 4 chiffres, peut-être 5 chiffres, ça a dû déjà m'arriver une fois dans ma carrière, je sais plus, tu vois. Mais franchement, on refuse des choses parfois que les gens n'ont pas idée, parce que vraiment, on essaye d'être le plus juste.
Et puis, ce qui est assez fou, c'est que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de refuser des contrats qui payaient vraiment extrêmement bien. Et en fait, c'est horrible, parce que derrière, les personnes vont quand même te dire « Quand même, tu fais plus d'un rôle par mois, est-ce que tu penses pas à l'écologie, etc. Tu trouves pas que tu surconsommes ?» Et je me dis « Mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, si je m'écoutais, enfin si je m'écoutais, non pas si je m'écoutais, mais si je cédais à la tentation, parce que c'est vraiment une tentation, je pourrais faire presque un rôle par jour avec plein de marques différentes, et là ce serait vraiment du n'importe quoi. Donc je comprends que ce soit choquant tout ça, mais au final, je pense qu'il faut aussi se mettre un petit peu à notre place. On essaye vraiment de faire au mieux et de trouver le juste milieu. Ça peut pas forcément plaire à tout le monde à chaque fois, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on refuse énormément de propositions, mais je pense que c'est tout à notre honneur. Par exemple, avec Tania, on a refusé il y a quelques jours une croisière. Et on se disait, c'est marrant, première collab même avec le compte des Cops et tout. On nous propose une croisière. Et j'ai dit à Tania, il est hors de question que je mette les pieds sur une croisière. C'est hors de question, c'est polluant, c'est non.
Je sais, c'est avec le cœur serré que je dis non.
Et voilà, les Cops, vous auriez pu nous suivre. sur un bateau, mais on a fait le choix, voilà, d'être raisonnable, de penser à la planète, et on l'a pas fait. Et c'est vrai qu'on se demande ce que les autres feront à notre place. Par exemple, si vous, les cops, demain, on vous propose un voyage gratuit, tout frais payé, vous refuseriez ou pas? Parfois, c'est pas évident, mais on essaye en tout cas de pas être des vendus. On vous le promet.
Vraiment, on essaye au mieux et on espère que vous le voyez quand même, même s'il y a toujours une ou deux personnes pour râler, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va, notre communauté, elle est cool, quoi.
Et moi, je suis aussi très heureuse de créer de l'emploi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais du coup, grâce à nos activités, bah, y a des personnes qui travaillent dans des agences, aussi au sein des entreprises, il y a carrément des départements dédiés au digital, aux réseaux sociaux, à l'influence. Mine de rien, moi, je sais que j'aide des petites marques, tu vois, à se développer. Et grâce à moi, bah, elles ont pu développer une nouvelle collection, elles ont pu... Enfin, je fais vivre, en fait, des personnes, tu vois, et c'est pas rien.
Quand tu fais des tournages, tu fais appel à des caméramans, des monteurs. Enfin, bon, après, on n'en fait pas tous les jours parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'en payer tous les jours. Mais si on pouvait, on le ferait au quotidien, quoi.
C'est ça. Et puis aussi, l'argent qu'on économise, c'est cool parce qu'avec Tania, on a d'autres projets. On sait que, par exemple, on y a déjà pensé, on vous l'a dit, petit exclu, mais on aimerait bien peut-être lancer un jour un business ensemble, une marque. Ouais. Et bah, pour ça, il faut de l'argent, tu vois. Donc, on essaye d'économiser au max et comme ça, après, ça nous permettra de rebondir.
Et de vous proposer des choses encore mieux au fur et à mesure, quoi. Parce que forcément, si on crée un business, ce ne sera pas un truc en crypto-monnaie ou je ne sais pas quoi. Ce sera un truc qui sera lié à nos cops parce que bah, on est conscient qu'il y a plein de belles choses à faire et qui attendent que nous. Donc, une fois qu'on a l'oseille, on s'y met les cops.
Et mine de rien, les réseaux sociaux nous permettent aussi de faire de belles rencontres puisqu'avec Tania, on s'est rencontrés en DM.
Ouais, une histoire de code promo. Je pense que vous la connaissez peut-être déjà, mais c'est hyper drôle, je trouve, quand même, de se dire que moi, j'ai contacté Chloé. J'ai mentionné Chloé dans ma story en disant à mes petites mounes qu'il y avait un code promo pour une marque chez Chloé. Et au final, après, on a papoté et on ne s'est pas quitté depuis bientôt 2 ans. C'est assez fou. Après, bon, parce qu'on a souvent cette question aussi. Moi, je sais, quand je rencontre des potes à moi qui suivent des influenceurs, est-ce que tu as rencontré machin? Est-ce que le truc, il est comme ça dans la vraie vie? Et là, 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 là. Qu'est-ce que t'aurais à dire, toi, par rapport à ça?
Alors, personnellement, oui, parfois, j'ai été déçue. J'ai des personnes qui ont essayé aussi de me faire des dramas, des filles qui m'ont accusée de plagiat à tort, qui sont aussi influenceuses. Donc, il n'y a pas que non plus du bon, hein, on va dire.
Il y a de la jalousie, je pense, sur les réseaux sociaux aussi, des fois.
Ouais, il y a beaucoup de jalousie, je pense, entre créateurs. Ah, regarde, elle a eu telle collab et moi, je ne l'ai pas eu. Tu vois, il y a des trucs comme ça, tu vois, où parfois ça peut créer un peu un sentiment de rage ou alors la comparaison sur les statistiques. Elle a plus de likes, tu vois. Enfin, vraiment, des fois, moi, j'ai déjà entendu ça, on se croirait dans la cour d'école. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui jouent un double jeu. Et moi, personnellement, je ne pourrais pas, ça m'épuiserait, tu vois. Si je devais avoir une double personnalité, mais la flemme.
Mais pourtant, c'est fou parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, on ne va pas les citer parce qu'on n'est pas non plus là pour faire du drama, mais en tout cas, c'est vrai, c'est assez fou de voir la différence qu'il peut y avoir entre la personnalité d'un influenceur sur ses réseaux sociaux et la personnalité que la personne elle a quand elle est en face de toi, quoi. Mais c'est même pas forcément une histoire de valeurs. En général, je trouve que les valeurs matchent. C'est plus une histoire, par exemple, des personnes qui ont l'air extraverties, qui le sont pas en fait dans la vraie vie, alors que nous deux, on est vraiment nature peinture. Ouais,
oui, par exemple, une personne qui va rigoler aux éclats dans ses vidéos, qui va être hyper joviale et tout, et en fait, tu le vois en vrai, il est hyper timide, ouais. Il parle pas.
C'est souvent plus ça, en fait, le cas de figure. C'est pas forcément des mauvaises personnes ou quoi, c'est juste qu'on est tellement vrai, nous, sur les réseaux, que du coup, on s'attend que tout le monde soit copie conforme de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, alors que c'est vrai qu'on oublie que au final, c'est une petite partie. Même les stories, même si on poste pas mal de stories, ça reste partie de notre journée. C'est quoi, 3-4 minutes à tout péter sur 24 heures, au final?
Et après, t'as des créateurs qui sont plus friendly que d'autres. Enfin, moi, je sais que parfois, je me suis retrouvée dans des déplacements professionnels où j'étais avec des filles qui étaient pas forcément avenantes, qui venaient pas forcément me parler aussi, parce que peut-être que je fais partie des créatrices engagées un peu différentes des autres, je sais pas. Et on n'avait pas forcément toujours le même rapport, tu vois, à l'image de soi. C'est vrai que moi, je m'en fous, tu vois, qu'on me photographie démaquillée avec l'acné, en mode dégueu et tout. Enfin, je suis vraiment passée à autre chose. C'est vrai qu'il y a des influenceuses qui vont faire plus attention, être toujours apprêtées et tout. Et des fois, bah, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément avoir le même rapport à l'image.
C'est tout bête, mais genre, comment tu fais pour faire une photo avec quelqu'un qui va vouloir mettre des filtres? Moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'en story, la personne elle me dit « Je suis noire un filtre hein !» Et je me dis
« Oh non, ah non !» Je vois en story.
Après, moi, je ne vais pas lui dire non, c'est sur son compte, tu vois. Mm. Mais c'est juste que je me dis « C'est dommage. » Et voilà. Mais en règle générale, quand même, pour être quand même dans le positif, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de belles surprises sur les réseaux sociaux et pas mal de jolies amitiés. Je pense notamment à Mal, Leslie. C'est vraiment des filles que j'ai adorées dans la vraie vie, genre des feelings comme ça, quoi. Et Chloé, bien sûr, parce qu'elle est là, voilà. Il faut bien l'associer un peu.
Et aussi, ce que je tenais à dire, une petite anecdote, c'est vrai qu'on est aussi humains, nous, influenceurs. Et je me souviens, il y avait une fille qui avait dit à Élise Miro sur les réseaux sociaux « Ah, mais tu souris pas, en fait, dans la vraie vie ?» Et bah oui, on n'est pas, on n'a pas une tête d'émoji en fait. Je suis pas là tout le temps avec le big smile. Parfois, je vais être dans mes pensées, tu vois. Et ça me rappelle que, bah du coup, nous, on est grave jugés par rapport à ça quand les gens nous voient dans la rue et tout. Et je me souviens par exemple une fois, j'étais hyper fatiguée. Je revenais d'un très long voyage. Et j'arrive à mon hôtel et là, on me dit, bah votre chambre, elle est pas prête. Et du coup, j'ai juste fait un petit. Tu vois, genre, parce que j'étais fatiguée, genre,
moi, c'est humain.
Voilà, j'étais, voilà. Et la fille, elle me dit, ah, d'ailleurs, je vous suis sur les réseaux. Et là, je me suis dit, oh merde.
Quelle image.
Oh merde. Je te jure, je suis pas quelqu'un d'antipathique, c'est juste que je suis fatiguée. Oui. Et j'avais trop peur de me faire juger, tu vois. Elle m'a regardé bizarre en mode, ah ouais, ça souffle, quoi. Et j'étais la merde.
C'est pour vous dire qu'en gros, même les réseaux sociaux, en fait, pour nous, ils s'étalent jusqu'à dans notre vie. En fait, moi, j'ai l'impression que toute ma vie est limite liée aux réseaux sociaux maintenant, quoi. Dès que je fais quelque chose, je pense aux réseaux sociaux. Dès qu'on me dit quelque chose, je pense à qu'est-ce que peut-être que je peux en faire un contenu. Quand je suis dehors au café avec des copines, je me dis, bon, je bois pas de café, mais bon, si je bois un coca avec des copines, je vais me dire, j'espère que si je dis un truc un petit peu touchy par rapport au travail, il y aura pas quelqu'un autour de moi pour entendre. En fait, c'est ça la difficulté, c'est que vous nous connaissez, mais nous, on vous connaît par les DM, mais on connaît pas forcément le visage de chacun. Et du coup, on peut vite tomber un peu dans une petite paranoïa en mode oh là là, imagine, je suis mal lunée, pas forcément pas coiffée ou quoi, parce que ça, je m'en fous, mais juste mal lunée ce jour-là, et c'est pas qui je suis, c'est juste 1% de 100%. Et après, je pense que les gens sont pas non plus jugeants s'ils voient que ouais, t'es en train de courir et que t'as pris 2 secondes pour dire bonjour et pas une minute ou deux.
Mais d'ailleurs, c'est important de le souligner parce qu'on n'est pas des robots. Et d'ailleurs, les cops, franchement, on reconnaît vos photos de profil quand vous nous écrivez souvent. On vous lit. On lit tout, hein. Faut pas croire, même si parfois on peut pas répondre à tout le monde. Vous inquiétez pas. On lit vos messages. Ouais.
Limite, là, depuis que je parle, j'ai pas eu le temps de regarder. Dès qu'on va couper le podcast, moi, je sais que je vais regarder mes DM direct. Hein. C'est. Vous êtes notre petite drogue à nous. Mais on aime ça, hein, franchement, on y revient. Mais c'est juste qu'il faut qu'on fasse attention aussi à notre santé mentale d'un autre côté, parce que c'est pas forcément bon de vivre trop dans l'attente d'un retour ou d'une validation de personne.
C'est vrai que moi, j'essaye maintenant aussi de faire attention à ça, et j'ai même consulté à un moment une psychologue, parce que vraiment, en fait, c'était trop pour moi, comme je suis très sensible. En fait, j'étais souvent à fleur de peau. Par exemple, quand j'ai passé une sale journée et qu'une abonnée va m'envoyer un message méchant, eh ben, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment laissé les réseaux sociaux avoir une emprise peut-être un peu trop forte sur moi, parce que je me mets carrément à chialer chez moi.
Mais parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que ça fait appel à nos insécurités. C'est-à-dire que c'est un truc que tu vas poster, par exemple, et tu vas te dire, là, j'ose et je poste quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on t'attaque là-dessus, bah, c'est là où ça fait mal. Et que ce soit une abonnée ou une amie à toi, nous, comme on vous considère comme des proches, ça fait mal, quoi. C'est assez fou, tu vois, l'impact que peut avoir notre communauté sur nous. Et je pense que c'est aussi pareil dans l'autre sens, mais c'est, nous, c'est peut-être un peu exacerbé comme on a un gros volume de personnes qui nous suivent, quoi.
En tout cas, on espère que ce podcast aura pu vous éclairer un petit peu plus sur notre vision et sur ce qu'on vit au quotidien. Et sachez qu'on est vraiment hyper heureuse de faire ce qu'on fait, et on espère que nos cops vont encore nous suivre très longtemps dans nos aventures.
Sur ce, les cops, on vous dit à mercredi prochain pour un prochain épisode.
Bisous les cops!